On veut de l'IA.
Oui, mais où sont vos données?
On sait pas.
Alors, en caricaturant, c'est à peu près ce qu'on entend de la part des dirigeants d'entreprise actuellement. Avec la hype autour de l'IA, personne ne veut rater le coche, comme ça a pu être le cas avec la transition numérique. Sauf que l'IA s'appuie sur du machine learning et la partie learning, apprendre, est importante. Pour qu'une IA puisse donner des résultats, elle a besoin de données, souvent de beaucoup de données et des données de qualité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour l'entreprise et comment bien se préparer à la mise en place de l'IA dans l'organisation? Pour en parler, je reçois aujourd'hui Virginie Mativet. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Alors, tu es docteur en IA. Aujourd'hui, tu as monté ton entreprise qui s'appelle MLOps. Tu accompagnes des entreprises sur les questions justement d'intégration d'intelligence artificielle ou de formation, sensibilisation. Mmh. Tu es particulièrement pertinente sur ce sujet. Pour entrer directement dans le vif du sujet, aujourd'hui, tout le monde veut implémenter de l'IA. Et ce serait peut-être bien qu'on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on parle d'IA? Et notamment, si on axe aujourd'hui sur le sujet qui nous intéresse, les IA génératives, de quoi on parle quand on parle de machine learning?
Alors, beaucoup de vocabulaire dans la même phrase, beaucoup de questions
exactement.
Autour du vocabulaire. L'IA, c'est un domaine de recherche et un domaine scientifique qui date des années 50, donc ça commence à dater un petit peu maintenant, dans lequel, en fait, on essaye de faire des codes qui s'adaptent et qui ne sont pas programmés sous la forme d'une suite d'instructions. Donc, dès qu'on ne fait pas une suite d'instructions, globalement, on est dans de l'IA. Au sein de l'IA, actuellement, la branche qui marche le plus, c'est le machine learning. Ou le machine learning, on ne fait pas de code. On ne dit pas, il faut faire ça, puis ça, puis ça. On donne des exemples. On dit, fait, dans ce cas-là, il faudrait faire ça. Dans ce cas-là, il faut faire ça, et ainsi de suite. Et donc, on doit lui fournir beaucoup d'exemples. Et dans cette branche du machine learning, il y a une branchette qui est l'IA générative, qui est le truc à la mode aujourd'hui, et qui est en fait de l'IA qui produit un contenu utilisable par l'humain au sens très large. Hein. Ça peut être un fichier Word, un PDF, un texte, une image, un son, une vidéo, enfin voilà.
Ok. Si on reprend le principe du machine learning, donc qui est presque plus un terme plus intéressant que intelligence artificielle qui peut faire un peu peur. Dans machine learning, on a donc la machine qui apprend, mais elle apprend sur quoi? Quelle est la méthode? Comment ça se passe exactement?
Alors la plupart du temps, quand on parle de machine learning, on parle de ce qu'on appelle le machine learning supervisé, qui consiste à donner des exemples avec la solution qu'on attendait. Par exemple, si on fait un classifieur chien-chat. On lui présente des images de chiens, des images de chats. On lui dit ça, c'est des chiens, ça, c'est des chats. Et le modèle va voir les images au fur et à mesure, un chien, un chat, un chat, un chien, et ainsi de suite, et va essayer d'en déduire c'est quoi un chien, c'est quoi un chat. Et donc, c'est ça, c'est je donne des exemples, et à partir de ces exemples, j'en déduis des généralités, j'apprends à généraliser sur ces données pour dire bah, qu'est-ce que c'est que A ou B ou C, ou combien ça va coûter un appartement en fonction de ses caractéristiques, ou que sais-je.
Alors, si aujourd'hui le modèle le plus connu, c'est GPT et son implémentation de façon conversationnelle ChatGPT, est-ce que tu peux expliquer en deux mots comment ça implémente justement ce principe d'apprentissage et comment on fait en sorte qu'aujourd'hui ce soit assez bluffant et quand on discute avec ChatGPT, comment il fait pour être en capacité de comprendre ce qu'on est en train de lui dire et de répondre? Comprendre, je vais le mettre avec des très très gros guillemets.
Effectivement, c'est des gros guillemets. En fait, tout simplement, il a été entraîné pareil avec des exemples, sauf qu'on lui a pas dit est-ce que c'est un chien ou est-ce que c'est un chat. On lui a dit voilà un texte, devine le mot suivant. Et à chaque fois, on lui a donné des phrases incomplètes et il faut qu'il complète les phrases et qu'il devine le début de la phrase suivante. Et ainsi de suite. Et en faisant ça, bah, il est devenu très très bon à écrire du texte, puisqu'en fait, écrire du texte, c'est pour chaque mot, je devine quel est le mot suivant, je le pose, puis à partir de là, je devine quel est le mot suivant, je le pose, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir un texte, jusqu'à un mot spécial qui veut dire fin de réponse. Et du coup, bah, je rends la main à l'utilisateur, et ainsi de suite.
Alors, pour faire ça, il a été entraîné, il a appris sur énormément de données. Donc, en fait, ce qu'on sait, c'est que OpenAI, qui est la boîte qui produit ChatGPT, a utilisé énormément de données sur Internet pour justement apprendre. Tu disais tout à l'heure, on reconnaît un chat. Quand on veut faire reconnaître un chat, il faut des millions d'images de chats pour arriver à reconnaître un chat. Là, en l'occurrence, c'est plutôt du texte. Donc, c'est des millions, des milliards de pages de texte qui ont été ingurgitées. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on va avoir un modèle qui est plus performant qu'un autre? Si on prend celui d'OpenAI et GPT, mais tu peux avoir Claude chez Anthropic, on peut avoir Mistral qui est français et Cocorico. Qu'est-ce qui fait qu'un modèle va être plus performant aujourd'hui qu'un autre?
Alors, ce qui change, il y a à la fois les données qu'on utilise. Par exemple, le GPT 3.5, le tout premier ChatGPT, il avait été entraîné sur l'équivalent d'à peu près 30 fois Wikipédia en entier. Donc, ça représentait beaucoup de données, mais ce n'était pas autant. GPT-4, on a encore agrandi le nombre de données. Donc, en fait, plus il y a des données, plus il peut apprendre de domaines, plus il peut apprendre de vocabulaire, plus il peut apprendre des façons de répondre, et ainsi de suite. Et puis, l'autre chose qui est derrière, c'est un point plus technique, c'est l'architecture. Les architectures ne sont pas tout à fait les mêmes. Et actuellement, on a très, très peu d'infos sur l'architecture de GPT-4o, GPT-O1 ou ce genre de choses. On soupçonne des choses, on va dire, on en déduit des choses de comment ils marchent, mais on ne sait pas exactement quelle est l'architecture qui est derrière. Mais le premier point, c'est les données quand même.
Ok. Ce qui nous intéresse, c'est le sujet de l'épisode. On voit que dans l'entreprise, on a de plus en plus de dirigeants, de managers qui utilisent ChatGPT, qui l'ont vu fonctionner, qui se disent « Tiens, mais ça m'intéresserait, j'aimerais bien mettre ça dans mon entreprise, basé sur les informations de mon entreprise. » Sauf que il se pose une problématique qui est, on le voit, on a besoin que le modèle connaisse les données et sache les entraîner. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour qu'une entreprise arrive à avoir quelque chose qui soit pertinent? Quels seraient tes conseils de ce côté-là? Quelles étapes passer pour être en capacité d'avoir un modèle qui soit entraîné sur les données de l'entreprise?
Bah, la première, c'est d'avoir des données déjà. Donc, de savoir où elles sont et d'être sûr qu'elles soient utilisables aussi. Parce qu'en fait, il y a un petit problème avec ces systèmes-là, c'est qu'ils lisent du texte. Donc, si vos données, c'est beaucoup de copies d'écran avec des ronds entourés dessus. J'ai eu le cas chez un de mes clients, il voulait un mode d'emploi de logiciel, mais les modes d'emploi, actuellement, ils sont faits via des copies d'écran et en rouge par-dessus, c'est entouré avec des flèches où il faut cliquer ou ce genre de choses. Mais quand on prend que le texte, puisqu'il ne fait que prédire que le texte, il y a cliquer ici, puis cliquer là, puis remplissez ça, puis remplissez selon la copie d'écran suivante et cocher les cases cochées dans la copie d'écran suivante. Pour un modèle, ça n'a aucune valeur en fait, ça. Donc vraiment, la base, c'est déjà, est-ce que vous avez des données? Où est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles sont de bonne qualité? Et est-ce qu'elles sont utilisables? C'est-à-dire qu'elles sont majoritairement du texte, ou en tout cas qu'on peut extraire le texte facilement. Sinon, bah, en fait, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Alors nous, c'est ce qu'on appelle fine-tuner. Fine-tuner, ça veut dire spécialiser un modèle sur des données d'entreprise. Ben, il faut ces données, quoi.
OK. Donc, la première chose, faire l'inventaire, savoir où sont les données. Donc, ça veut dire faire intervenir les différents services de l'entreprise pour savoir quelles sont leurs données. Quand on parle de qualité de données, c'est un mot qui, à la limite, quand on est tech, on peut comprendre ce que ça veut dire. Pour une entreprise, là, ce qu'on s'est dit, il faut que on n'est pas juste des cliquets ici, mais des données qui soient plus précises. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail là-dessus? Qu'est-ce que tu dirais à un client pour leur expliquer ce que c'est avoir des données de qualité?
Alors, avoir des données de qualité, c'est pas avoir beaucoup de données. Parce que j'ai des clients qui ont beaucoup de données, mais qui ne sont pas du tout de qualité. Même, c'est rarement compatible en général. Donc, il faut faire attention à ça. Ce n'est pas une question de quantité, de nombre de documents qu'on a, mais c'est de quel est l'apport et la connaissance qui est présente dans ces données. Quelques exemples. Donc déjà, il y a l'exemple de les copies d'écran, ce n'est pas utilisable, ce n'est pas de la bonne qualité. Si j'ai le même document, mais dans plusieurs versions. Par exemple, j'ai les procédures 2022, 2023, 2024 d'un certain process et que je mets tout dedans, en fait, le modèle va tout traiter pareil et il ne va pas savoir quel est le process à appliquer. Donc là, la bonne qualité, ça signifierait n'avoir que la dernière version qui est à jour. Donc, il faut que ça soit à jour, il faut que ça soit complet, il faut que ça soit facilement compréhensible et lisible. Plein de critères de ce type-là, en fait. L'idée, c'est de se dire, si j'ai quelqu'un qui arrivait dans l'entreprise et que je n'avais pas le droit de lui parler, mais juste de lui donner des documents, est-ce que j'aurais les documents qu'il faut pour qu'il comprenne ce qu'il doit faire. Si vous les avez pas ou que vos documents sont pas clairs ou que c'est des vieilles versions, mais qu'en fait, c'est pas vraiment ça qu'il faut faire maintenant, parce qu'en fait, c'est ce qui est marqué dans la doc, mais on a changé il y a 6 mois, on a décidé que, en fait, ça marchera pas.
Est-ce que c'est important de les structurer? C'est-à-dire, est-ce que toutes ces données, il faut les mettre dans une base de données bien structurée ou les classer dans des répertoires ou pour ton modèle, en fait, lui, s'en fiche, il va tout intégrer de façon globale?
Alors, pour le machine learning, globalement, c'est mieux les données structurées. C'est-à-dire dans des jolies bases où c'est bien rangé, avec des colonnes et ainsi de suite. Pour le cas spécifique des IA génératives de texte, il n'y a pas besoin, il y a besoin juste de documents et il n'y a même pas besoin de forcément les classer parce qu'il ne va pas utiliser le classement qu'on va utiliser, il va juste utiliser le texte qui est dedans puisqu'il va prédire le mot suivant, en fait, sans autres informations. Donc, du coup, ça dépend ce qu'on veut en faire. Mais dans tous les cas, il faut que ça soit quand même géré à un endroit unique. Et c'est pour ça que la plupart du temps, que ce soit des données structurées ou non structurées, on va parler de data platform, c'est-à-dire d'endroits où on gère toutes ces données. soit sous forme de, d'entrepôt de données, soit sous forme de data lake, qui est le nouveau truc à la mode pour des données non structurées, ouais. mais qui a son intérêt, en fait. En tout cas, il faut que ça soit géré, quoi.
OK. Là, on commence à parler justement avec des mots techniques, ce qui veut dire qu'au départ, faire l'inventaire et éventuellement arriver à trier un petit peu toutes ces données pour qu'elles soient de qualité, ça pouvait être géré dans les différents services de l'entreprise. Mm-hmm. Mais là, on est en train de se dire que on va avoir besoin d'une DSI ou de services techniques qui sont en capacité de centraliser tout ça, ne serait-ce que pour pas faire de la redondance ou avoir plein de systèmes différents et potentiellement pour les risques. Donc, quels seront tes... conseil, toi, de ton côté, comment est-ce que tu vois ces choses-là, comment tu conseilles tes clients sur l'intervention de la DSI dans ces projets?
Alors, clairement, il y a le début se fait au niveau métier, la suite technique, elle est technique, justement, donc il faut des équipes techniques qu'il faut mutualiser dans les entreprises. Alors, généralement, ça dépend de la DSI, mais ce n'est pas toujours ce que je vois. Des fois, ça dépend du service innovation ou en tout cas d'une branche innovation ou d'une branche spécifique data qui est de l'informatique, mais qui ne dépend pas directement de la DSI. En tout cas, il faut créer un pôle qui est pour charge de centraliser ces données, de s'assurer de la qualité et de s'assurer de plein d'autres aspects auxquels le métier ne pense pas forcément directement, comme le monitoring pour savoir si ça marche bien, la sécurité pour savoir qui a accès à quoi, de gérer aussi tout ce qui est... correspondance avec les textes de loi. Est-ce que ça respecte le RGPD? Est-ce que ça respecte l'AI Act? Est-ce que ça respecte plein d'autres textes qui existent? Donc voilà, donc en tout cas, il faut qu'il y ait un endroit spécifique dans l'entreprise où c'est géré et où il y a une équipe qui est à la fois technique et à la fois un peu fonctionnelle, c'est-à-dire qui peut comprendre ce que le métier fait de manière à pouvoir gérer ces données.
On voit que les modèles d'intelligence artificielle générative sont en permanence fine-tunés par des OpenAI, par des Anthropic, pour éviter certaines dérives. Est-ce que dans l'entreprise, ce travail-là doit être fait aussi, c'est-à-dire faire en sorte que les modèles ne viennent pas sortir du bac à sable et raconter n'importe quoi?
Alors oui, ça c'est. Alors en anglais, ça s'appelle les guardrails, qui sont les garde-fous en français. Et effectivement, ces modèles génératifs, ils ont quand même une fâcheuse tendance. C'est à répondre, mais pas forcément de la façon exacte dont on aimerait qu'ils répondent. Ils peuvent répondre à côté, ils pourraient faire autre chose que ce pour quoi ils sont prévus, et ainsi de suite. Donc, il faut mettre pas mal de barrières autour. Et c'est un vrai métier actuellement de savoir faire ça, parce que ils peuvent très vite partir potentiellement à côté. Il y a eu l'exemple, il y a quelques temps, de DPD, les livreurs DPD, qui avaient mis un chatbot où on pouvait avoir l'état de notre colis directement en posant des questions avec une IA générative. Et en fait, il y a des petits malins qui ont commencé à demander à l'IA générative d'autres choses. Par exemple, d'écrire un poème pour vanter les qualités de DPD et en particulier dire qu'ils étaient moins bons que la Poste. Et le modèle, il l'a fait. Ouais. Parce que c'est un modèle d'IA génératif, donc il est fait pour discuter, il est fait pour écrire, mais c'est pas vraiment ce pour quoi il était prévu.
Donc là, ça veut dire que même si on a des bonnes données au départ, c'est-à-dire on a bien fait l'inventaire, on a des données de qualité, on a quand même un travail perpétuel pour venir faire en sorte que le modèle réponde correctement et soit en capacité de faire ce qu'on lui a demandé de faire, sorte pas du bac à sable et soit en capacité d'être de plus en plus performant. Est-ce que à ce niveau-là, dans l'entreprise, si c'est des modèles qui sont mis en place, par exemple, pour faire du knowledge management, donc le knowledge management, c'est j'ai beaucoup d'informations et je veux que mes collaborateurs puissent interroger un chatbot, par exemple, pour avoir des réponses. Est-ce qu'on fait intervenir les utilisateurs pour en permanence améliorer la qualité des réponses? Comment est-ce que tu le mets en place, toi, ça?
Alors, on peut, mais il y a un piège. C'est que les utilisateurs, on ne sait pas trop ce qu'ils vont dire. Ils pourraient très bien dire que la réponse correcte, elle n'est pas bien, mais que la réponse incorrecte, elle est bien. Donc, en fait, quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait une supervision humaine de tout ce qui va rentrer dedans. Alors, c'est bien de demander aux utilisateurs si ça leur va ou si ça leur va pas, en tout cas, de laisser le moyen de mettre un petit pouce vers le haut, un petit pouce vers le bas ou l'équivalent. Par contre, ça suffira clairement pas. Il faudra qu'il y ait une personne derrière qui dise « Ok, là maintenant, on trouve qu'on a trop de problèmes. On va décider de réentraîner notre modèle. Il s'entraîne pas en permanence. Et je regarde les données que je rajoute à mon ensemble d'apprentissage et je valide qu'elles sont de qualité, là encore, avant de les mettre dans l'ensemble d'apprentissage. Sinon, on obtient des dérives. Et c'est ce que commencent à rencontrer certains gros du domaine qui ont un peu trop inclus de choses en automatique dans leur dataset et qui se rendent compte que par moment, la qualité du modèle, elle va baisser parce qu'il y a eu cette inclusion un peu trop groupée Et entre autres, les générateurs d'images ont actuellement un gros souci, c'est qu'en fait, comme ils apprennent avec des images qui ont été elles-mêmes générées par IA sur des phases précédentes et donc de moins bonne qualité, les générateurs d'images ont du mal à progresser, voire ils régressent à cause de ça. Donc, il faut cette supervision, il faut passer le temps de le faire, même si c'est cher, même si ça prend du temps.
D'accord. Ça veut dire que dans les équipes, dans l'équipe qu'on va monter en entreprise, on doit avoir des personnes qui sont dédiées à cette tâche.
En tout cas, s'il n'y a qu'un seul modèle à superviser et qu'il est peu utilisé, la personne, elle pourra faire ça à temps partiel, on va dire. Ça ne sera pas un temps plein. Mais oui, il faut qu'il y ait des personnes qui fassent ça, qui soient définies et qui suivent sur la durée ce qui se passe. Ce n'est pas « je mets en place mon modèle et puis c'est bon, je m'en lave les mains, c'est fini, on passe au sujet suivant ». Il faut que ça continue de vivre, d'évoluer, comme n'importe quel autre logiciel, en fait. Ouais. Quand vous faites un logiciel, et ben, y a des bugs qui sont remontés par les utilisateurs, il faut les corriger, il faut faire des évolutions, il faut déployer la nouvelle version. C'est exactement pareil pour les modèles de machine learning.
D'accord. Alors, maintenant qu'on a vu comment on pouvait le mettre en place dans l'entreprise, ça veut dire qu'on peut mettre de l'IA partout et que ça va être magique.
Alors, on peut mettre de l'IA partout, effectivement. Il n'y a rien d'interdit et l'IA peut s'appliquer à plein de domaines. Par contre, ce n'est pas magique du tout. Il y a des cas où ça va marcher, il y a des cas où ça ne va pas marcher. Donc, en fait, le principal point d'abord, c'est de se dire où est-ce qu'on va le mettre, où est-ce que ça a le plus de valeur de faire de l'IA. Et ce n'est pas parce qu'on peut mettre de l'IA qu'il faut mettre de l'IA. C'est une grosse différence.
Ouais. C'est-à-dire, à partir du moment où on a de la donnée, on peut aussi faire parler la donnée sans avoir besoin de mettre de l'IA par-dessus. On peut très bien aller extraire de la donnée et faire de la business intelligence classique. Ouais.
Bah oui, et puis même tout simplement des stats. En fait, moi, j'ai des clients, ce dont ils ont besoin, c'est une moyenne. Et d'analyser la moyenne au cours du temps, par exemple, pour savoir s'il y a des dérives, bah, en fait, vous faites juste la moyenne tous les jours et vous regardez s'il y a une tendance à la hausse ou à la baisse sur les moyennes sur, je ne sais pas, 3 mois, par exemple. Il n'y a pas besoin d'IA pour dire que c'est en train de dériver à la hausse ou à la baisse, en fait.
Ouais, c'est... Ça, c'est des choses qu'on sait faire depuis longtemps. Et
ah bah, depuis qu'on a inventé les maths à l'Antiquité, donc ça commence à dater un peu, effectivement.
Si tu avais des use cases, alors on a parlé de knowledge management tout à l'heure, mais si tu devais proposer d'autres use cases que tu as vus en entreprise, utilisant des IA génératives ou du machine learning, qui peuvent apporter beaucoup de valeur, tu citerais quoi?
Alors, il y en a un petit paquet, parce que ça va dépendre de où sont les personnes, dans quel domaine, en fait, parce qu'en fonction des domaines, ce n'est pas du tout le même. Mais par exemple, quelque chose qui s'applique dans la majorité des entreprises que je rencontre, c'est on fait tous des réunions, beaucoup de réunions. Ces réunions, bah, à la fin, il faut faire un compte-rendu. Et dans la majorité des entreprises, il faudrait faire un compte-rendu, mais il n'est pas fait. Pourquoi il n'est pas fait? Parce que ça demande du temps et que personne n'a le temps pour le faire. Donc, c'est long à faire. Ça n'a pas tellement de valeur ajoutée pour la personne qui le fait parce que n'importe quel assistant présent pourrait le faire, en fait. Il n'y a pas besoin d'être responsable ou expert. Et en plus, il y a des risques d'erreur, qu'on ait oublié, qu'on ait mal noté, qu'on se soit trompé et ainsi de suite. Et donc là, pour moi, c'est typiquement le genre de cas d'usage où on peut mettre de l'IA. Il y a actuellement des outils de prise de notes en réunion qui permettent de faire ça pour nous et qui peuvent nous envoyer directement à la fin de la réunion le compte-rendu. On n'a plus qu'à le relire, le modifier, il faut toujours valider. Toujours une validation humaine, c'est important. Et on envoie à tous les présents à la réunion et puis voilà. Et au moins, on se rappelle de ce qu'on a décidé la fois d'avant. On va gagner du temps, on va gagner en qualité et on aura moins d'erreurs dedans. Donc, c'est cool.
Maintenant qu'on a compris tout ça, quels sont les grands cas d'usage pour toi sur lesquels il y a vraiment beaucoup de valeur à intégrer ce type de technologie dans l'entreprise?
Donc, le premier, c'est tout ce qui est chronophage. Partout, vous avez des tâches. Alors, soit la tâche, elle est chronophage en elle-même, elle prend beaucoup de temps, soit elle n'est pas très chronophage, mais elle est très répétitive. Et du coup, bah, à chaque fois, même si ça prend que 10 minutes par jour, 10 minutes par jour, ça représente une semaine de travail à l'année. C'est énorme. Donc, c'est chronophage répétitif. Là, déjà, ça veut dire qu'il y a quelque chose à chercher. En plus, potentiellement, il y aura de la donnée, surtout si c'est répétitif, parce qu'on le fait souvent. Le deuxième point, c'est tout ce qui est à risque d'erreur. Erreur humaine, parce que bah, l'humain fait des erreurs. Hein. Typiquement, la recherche de défauts sur des chaînes de fabrication, on sait très bien que l'humain laisse passer des défauts parce qu'il ne les a pas vus, parce qu'il est fatigué, parce que c'est le soir, parce qu'il a pensé à autre chose. Et là, c'est intéressant de mettre de l'IA. Globalement, ce que j'ai vu dans la plupart des industries où j'ai travaillé, c'est que quand on met un système d'IA pour détecter des défauts, on détecte 2 fois plus de défauts qu'avant. Ce qui veut dire que l'humain en laissait passer au moins la moitié de ce qu'il découvrait, quoi. Enfin, donc voilà. Et le dernier, c'est tout ce qui est à faible valeur ajoutée pour les personnes. En plus, on est dans un monde où de plus en plus, on cherche le sens, la valeur, la motivation dans nos emplois. Il y a plein de tâches qu'on fait qui n'ont aucun intérêt pour notre emploi. Ce n'est pas notre cœur de métier, mais il faut les faire pour l'entreprise. Bah, finalement, si on pouvait s'en soulager, ça serait pas mal quand même. Donc, dont la prise de notes en réunion, mais il n'y a pas que ça. Il y a de la relecture de documents, il y a de la rédaction de documents à partir du moment où on a défini les idées. Il y a ce genre d'utilisation où on peut se dire, bah, pourquoi pas demander de l'aide à l'IA.
OK. Dernière question. Pour une entreprise qui aujourd'hui se dit, il faut y aller, mais je ne sais pas par quel bout commencer, quelle serait la première chose, le premier conseil que tu leur donnerais, à part t'appeler pour faire le job?
Alors, ne m'appelez pas tous, hein. J'ai qu'une vie. Le premier conseil, déjà, moi, je dirais, c'est vraiment ça, c'est trouver là où ça serait intéressant. Est-ce qu'il y a besoin d'IA? Parce que moi, ça m'arrive qu'il y ait des clients qui me disent, on veut mettre de l'IA. Mmh. D'accord, mais pourquoi? Juste, c'est à la mode, on veut faire de l'IA. Mmh. Bah, en fait, non, parce que je sais déjà que dans ces cas-là, ça ne marchera pas et ça ne dépassera jamais le stade du POC. J'ai jamais rencontré une entreprise qui disait « je veux faire de l'IA pour faire de l'IA » et qui mettait ça en production, c'est-à-dire qu'il l'utilisait après tous les jours. Mmh. Donc, le premier point, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment faire avec? Et pour savoir où vous pourriez mettre de l'IA, bah, faut se former. Donc, apprenez un petit peu ce qu'est l'IA, regardez ce qui se fait à droite, à gauche et dites-vous, c'est où qu'il y a vraiment de l'intérêt chez moi, quoi. Et si vous ne pouvez pas le faire, faites-vous aider pour le faire, mais déjà déterminez le use case avant de commencer autre chose.
OK. Merci Virginie. Je rappelle aussi que tu es conférencière et que tu peux porter des conférences sur ces sujets pour aider à sensibiliser et à mieux faire comprendre à quoi servent les IA. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux?
Sur LinkedIn.
Sur LinkedIn.
j'ai pas sauté le pas des autres réseaux à côté, ouais. X et autres. Donc non, sur LinkedIn, mais il n'y a pas de souci. Je réponds aux messages, pas dans la minute, mais le plus vite possible à chaque fois qu'on m'écrit.
Ça marche. Merci beaucoup. Merci d'avoir été à ce micro.
Merci.